Et oui, ce n'est pas la voix d'Étienne Dallaire, mais pourtant les auditeurs se sont tellement habitués qu'à chaque fois ça doit être la surprise. On a un dernier rendez-vous avant la bénédiction Urbi et Orbi. Lors de ce rendez-vous, on va encore passer du temps avec vous, chers auditeurs, peut-être pour vous parler un petit peu des coulisses de ce Triduum Pascal et plus largement de cette Semaine Sainte. On s'est dit qu'on allait parler, un peu making of, comme on dit dans le jargon, les coulisses un peu de la réalisation, et puis peut-être tous les clins d'œil. Comme on dit parfois, les moments où on a eu le sentiment que Dieu avait fait signe. Étienne Dallaire, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot en introduction, peut-être, sur la bénédiction Urbi et Orbi ? Pourquoi faut-il rester avec nous à l'antenne encore jusqu'à midi ? Pourquoi jouer les prolongations ?
Parce que nous serons en direct de Rome pour recevoir cette bénédiction du Saint-Père. C'est une bénédiction tout à fait spéciale qu'il ne prononce qu'en ce jour de la Pâque, normalement à midi, sur la place Saint-Pierre
à
Rome.
C'est une bénédiction qui est adressée au monde ?
Au monde entier.
Pourquoi est-elle si particulière ?
Voilà, elle est particulière parce que c'est la bénédiction de la Pâque. Et donc, c'est toute cette grâce de salut, de la bonne nouvelle de la résurrection qui est annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, cette bénédiction, elle n'est pas réservée au territoire du Vatican, ni même à l'Église catholique. Finalement, elle est pour l'humanité entière. Elle doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette bénédiction, d'ailleurs, elle est un peu longue parce que le pape va effectivement, s'il respecte la tradition, avec François, on se demande toujours ce qu'il va nous inventer, mais normalement...
Ne dites pas que vous faites partie des anti-François, quand même.
Non, pas du tout, je trouve ça très sympathique. Normalement, elle est prononcée dans un certain nombre de langues pour que justement chacun puisse s'y reconnaître. Alors je pense que le pape François va respecter cette tradition qui est très très belle.
Et on se demande chaque année comment les papes font pour prononcer ça dans une telle multitude de langues. Ça demandait beaucoup de révision quand même de prononcer ça en papou, en philippin.
Alors je pense que le plus simple c'est d'apprendre la phonétique et puis de lire chaque bénédiction en phonétique.
Alors, on s'est dit qu'on allait commencer cette émission un peu par quelques making-of. Alors, pour donner l'exemple, je vais commencer, si ça ne vous embête pas. Je vais me poser la question à moi-même.
On peut vous laisser, Emmanuel.
Voilà, non. Non, j'avais 2-3 anecdotes, de fait, qui peuvent être un peu amusantes pour les auditeurs. Le premier, c'est que pendant quelques jours, j'ai vécu au rythme des matinaliers. Vous savez, à la radio, on se dit souvent, enfin, parfois pour se motiver, que c'est comme un phare. On envoie de la lumière au loin, on ne sait pas qui ça touche, au large de la mer. Et quand on arrive à la radio, en plus, nous, on monte. Alors, l'escalier n'est pas en colimaçon, il ne monte pas à 20-30 mètres. Et pour une fois, je me levais à 5h30 et j'arrivais au moment où toute la ville dort et où on commence à envoyer la lumière au loin en espérant que des bateaux vont la capter. J'ai trouvé ça très beau et très touchant. Peut-être une autre anecdote un peu plus triviale. J'en donnerai une deuxième et je laisserai les autres continuer, même s'il y en aurait d'autres. C'est la bonté de la communauté des Béatitudes. On finit par se sentir ici presque en famille. Et c'est ce matin, lors de la messe, que je me suis dit, mais en fait, c'est quand même une communauté religieuse. On aurait pu être chez des bénédictins, chez des trappistes. On n'aurait pas pu prendre le café avec vous le matin comme ça. On n'aurait pas croisé une mère de famille qui fait la nourriture. Mille et une, petite attention. Et il y a quelques signes quand même, évidemment, vous êtes en habit. Et puis le matin, le pain est livré. Quand on arrive à 6h du matin, on voit les baguettes de pain qui sont livrées au monastère, comme dans d'autres monastères. Je ne sais pas si c'est un don. Voilà, ça c'était mes quelques making-of. On va donner la parole peut-être. Vous aviez un commentaire, Michel Martin-Prével, non ?
Non, moi personnellement, j'étais très touché de cette connivence qu'il y a entre du local, puisqu'on est, resté dans notre monastère, et en même temps, on accède à déjà de l'universel, enfin à un certain niveau, par tous ces auditeurs qui sont répartis partout. Et j'ai senti très fort cette communion, et que vraiment, cette technique que vous nous apportez, elle est là pour, bien entendu, dans ce temps pascal, participer à diffuser vraiment la beauté de notre Dieu. Et moi, je veux dire maintenant, après cette bonne messe, que je suis fier et heureux d'être chrétien.
Voilà. Vous êtes habitué en même temps à parler un peu dans l'invisible, non ? Parce que là vous adressiez hier soir à la veillée pascale, vous disiez vous adressiez à ceux qui étaient devant vous et puis peut-être à quelques dizaines de milliers de personnes que vous ne voyez pas.
C'est
le quotidien d'un religieux, ça, de parler.
Peut-être pas le quotidien, mais dans son cœur, oui, parce que vous savez, même l'ermite, il est branché sur le monde entier. Et on a cette chance, en tout cas dans notre communauté, de ne pas être simplement cloîtré, mais aussi, tout en étant contemplatif, être très ouvert à notre monde. Et moi, je sens très fort justement cette réalité. Ça s'appelle la communion des saints, tout simplement. Nous l'avons dit dans notre credo.
On peut peut-être rappeler les radios. J'avais fait le calcul, Thibault. Moi, je suis un homme, donc j'aime bien compter. Un bassin de population de 4,5 millions de personnes. On imagine qu'il n'y a peut-être pas 4 millions de personnes qui nous ont écoutés. Mais s'il y a 1%, ça fait quand même 45 000. Donc, ils étaient nombreux à être avec nous.
5 radios, c'est vrai, on peut dire d'où elles venaient. Il y avait le Pays Basque avec Radio Lapourdi. Il y avait la Mayenne avec Radio Fidélité. Il y avait toute la Corse avec la radio Salve Regina. Il y avait le Gard avec Radio Ecclesia. Et puis toute la région Midi-Pyrénées avec Radio Présence.
En Corse, ils sont combien ? 2-3 millions, non ? C'est ça ?
Ça dépend des comptages.
Il faut être gentil avec les Corses.
Si on inclut Marseille, oui.
Mais c'est vrai que les personnes, on a vraiment eu cette mission de toucher le plus de personnes possible. Et je crois que c'était une grande réussite cette année.
Ce matin, il y avait aussi tout le réseau Radio Espérance qui était avec nous ce matin.
Voilà, en plus tout le radio, voilà, en plus, qui en rajoute beaucoup de monde, je crois. Voilà, tout à fait. Toutes les personnes qui étaient en voiture, qui étaient seules, qui étaient chez elles, les personnes malades qui n'ont pas pu se déplacer pendant les offices. Bah, c'est une chance, c'est une joie pour nous. C'est vraiment dans notre mission de Radio Chrétienne de toucher et d'accompagner ces personnes pendant ces moments-là, pendant ce sommet de la vie chrétienne.
Redites-nous peut-être, Thibault, je ne sais pas depuis quand on a pris nos auditeurs par la main pour vivre ce tridium. Quand est-ce que cette aventure a commencé ? Refaites-nous un petit panel.
Ça fait longtemps que cette aventure a commencé, c'est vrai. On a retransmis pour la première fois, je crois, depuis l'abbaye de Sylvanès, dans l'Aveyron. On a été ensuite à Encalcate. On est allé chez les Dominicains de Toulouse, le couvent des Dominicains de Toulouse. On était à l'abbaye du Boulor. On a été au Rocamadour.
Dans le Gers, donc.
Voilà, Rocamadour, dans le Lot. On a été à Lourdes. Cette année, donc, communauté des Béatitudes et Blagnac. Et l'année prochaine, un petit scoop. On sera en direct depuis le couvent des Carmes à Toulouse. Donc à chaque fois, un pays différent, un lieu différent, une vie monastique différente, un mystère différent. C'est une manière différente à chaque fois de vivre le tridium. C'est une chance extraordinaire.
Et c'est vrai que quand on est journaliste, chaque année, on se creuse un peu les méninges. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire comme émission ? Mais quand on travaille, on gratte et qu'on voit un petit peu la particularité des communautés, on arrive à tirer des fils qui sont vraiment... très beau qu'on fait. Enfin, moi, j'ai trouvé quelques magazines qu'on a fait, entre autres sur le lien, évidemment, de la communauté des béatitudes avec le judaïsme. Peut-être qu'on pourra en redire quelques mots, Thibault.
C'est vrai que c'est important ce que vous dites. Il y a eu des émissions spéciales, il y a eu des matinales spéciales. Vous racontiez votre anecdote tout à l'heure. Matinale transformée pour faire vivre un petit peu cette immersion au début de chaque journée. Les offices qu'on a retransmis, les lodes, les offices des ténèbres, et puis le jeudi saint, vendredi saint. On était d'ailleurs dès le lundi, puisqu'on a commencé par la messe chrismale, et puis donc
en
direct de la cathédrale Saint-Étienne, et puis jusque donc la bénédiction Urbi et Orbi en direct du Vatican tout à l'heure. C'est vraiment une semaine entière où on accompagne nos auditeurs. Voilà, c'est quelle chance nous avons. C'est vraiment.
Alors, comment parler du making-of comment parler des coulisses sans ne pas parler de Francky Guéret, directeur technique de la radio. Même là, il est encore aux manettes, il n'est pas autour de la table avec nous. Francky, vous qui avez monté les coulisses de ce théâtre pendant ce théâtre qui ne joue pas une pièce, évidemment, de cette semaine, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voudriez partager avec nos auditeurs Déjà, vous n'êtes pas trop fatigué ?
Ah, toujours un petit peu. Alors, je vais vous livrer une anecdote qu'on m'a dit hier soir. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité, mais nous, on est morts.
Voilà. C'est souvent ce que disent les prêtres, il paraît.
C'est toujours un petit marathon. Alors, moi, j'ai un petit peu de chance. Je suis un petit peu privilégié parce que c'est vrai que je suis sans doute un de ceux qui passent le plus de temps avec les frères et sœurs des monastères dans lesquels nous sommes installés. Qu'est-ce que je peux retenir comme à chaque fois une extrême bienveillance, une extrême gentillesse. En fait, on s'est vraiment adapté à la radio, notamment le père Michel Martin Prével qui est juste à côté de moi, qui s'est vraiment plié en quatre, je dirais, pour accueillir la radio et faire en sorte que tout se passe bien pour nous. Donc un grand merci. Qu'est-ce que je peux vous donner comme anecdote ? La salle dans laquelle nous sommes installés. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas dans l'église même. Et au début, on nous a proposé une toute petite salle à côté de la sacristie.
Au milieu des fleurs.
Ne pas avoir d'autre choix. Et on aurait été très, très serré. Et puis finalement, on a trouvé une autre salle derrière l'église qui nous va très bien. On a même le privilège d'avoir du chauffage. Donc voilà, on a été très très bien accueillis. Alors peut-être par rapport aux autres semaines saintes qu'on a fait, un côté très familial ici qu'on ressent aux Béatitudes. C'est vrai qu'on voit beaucoup beaucoup de familles. Et voilà.
Comment vous y prenez pour tout le matériel? C'est à chaque fois compliqué, c'est très différent selon les lieux, qu'on soit à Rocamadour ou ici, ou est-ce qu'il suffit de trouver une ligne internet et de poser
C'est toujours un peu différent, oui. Alors la première question, ça va être la question de la retransmission. Comment on va retransmettre le signal? Ça peut être de l'internet, ça peut être du téléphone amélioré, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Mais ça passe toujours par une phase, ce qu'on appelle de repérage dans notre jargon, où on vient sur place, on essaye de voir qu'est-ce qu'il va falloir faire, quel est le matériel qu'on va pouvoir réutiliser sur place. C'est pas toujours le cas, parce que je peux vous dire que les sonos dans les églises, c'est pas toujours ça. Alors là on a eu la chance, ils ont une très bonne note, parce qu'ils ont très bien, ils ont une mini sono pour avoir la scola et tous les instruments, donc du coup ils m'ont facilité beaucoup la tâche. Donc,
voilà. D'ailleurs dans la série Anecdote en live, on peut dire que la musique continue encore maintenant dans l'église, et que voilà, la sœur chantre qui a animé pendant ces 4 jours.
Et qu'on attend,
elle continue à chanter, sa danse, ça se réjouit, ça n'arrête pas de continuer à chanter. C'est magnifique, parce qu'on a un petit écran vidéo dans cette salle qui est pas immédiatement, qui donne pas dans l'église. On a un écran vidéo qui nous permet de suivre toutes les cérémonies, et bien entendu ce qui a permis à Étienne d'intervenir à bon escient.
Voilà, on est mieux placé que si on était dans la chapelle, parce que c'est vrai qu'on voit tout, les déplacements, on a une vision panoramique de l'ensemble de la chapelle. Alors peut-être c'est un petit peu, au début c'est un peu frustrant de se dire mais je suis venu à tel endroit et puis finalement je me retrouve dans une pièce avec un écran. Quoi.
Surchauffé. Donc, en plus.
Je ne vois pas pourquoi je suis venu.
Avec un pull.
Voilà, ça m'a beaucoup frustré par exemple quand j'avais été à Jérusalem couvrir le voyage de Jean-Paul II en Terre Sainte. Alors au lieu d'être sur le terrain à le suivre, on était au centre de presse, dans une pièce plus petite que celle-là, avec un écran télé et le son international, voilà, et la possibilité de commenter. Mais finalement, on se dit que c'est beaucoup mieux, parce que si on est sur le terrain, qu'est-ce que j'aurais vu? J'aurais vu Jean-Paul II me passer devant le nez, et puis ensuite, il est à tel endroit, il prononce un discours, et une heure après, avec l'hélicoptère, il est parti. Là, on suit tout. On suit tout sans se déplacer, et on a en même temps une proximité que l'on n'aurait absolument pas si on était sur le terrain.
Oui. Justement, excusez-moi Francky.
Oui, c'est assez paradoxal, mais effectivement, moi j'avais vu ça pour la première fois au JMJ, je me souviens, à Madrid, où tout le monde, toutes les radios étaient là avec leur petite cabine de speak. Alors on est enfermé finalement.
C'est ça.
Voilà, on est cloisonné dans des pièces de 6-7 mètres carrés.
Ah oui, oui, oui.
Mais avec ce retour vidéo et ce son international, et finalement, c'est très bien.
Oui, bah oui, ça permet d'être au plus près, finalement, de l'événement.
Parce qu'Étienne, vous ne pouvez pas ne pas être attentif aussi pendant la liturgie. Est-ce que ça vous aide pas, d'une certaine manière? Vous êtes obligé de la suivre de près, de lire les textes, d'essayer de comprendre vraiment ce qui se passe. Sinon, c'est difficile de vivre ça avec de faire vivre par procuration.
Alors, c'est aussi un petit côté frustrant, ça. C'est qu'on est, à la limite, moi, j'aimerais mieux être dans la chapelle, pouvoir m'unir au chant, pouvoir faire les démarches, pouvoir m'agenouiller. Là, je suis coincé dans mon studio, devant mon écran, avec mon casque, et je trouve un petit moment pour aller prendre la communion entre deux chants. Ça, c'est un peu frustrant aussi, mais finalement, j'aime bien, parce que je me dis que peut-être ça aide un petit peu l'auditeur à entrer dans la célébration. C'est pas évident quand on voit rien, en fait.
Vous avez eu l'impression vraiment de vivre ça avec les auditeurs, ou est-ce que ce sont juste des mots? C'est difficilement palpable pour vous, mais...
C'est difficile à dire. J'essaye de mettre un peu à la place de l'auditeur qui est aveugle, et donc lui donner pas tout, parce qu'il ne faut pas non plus alourdir, et puis ce qui prime c'est la liturgie plutôt que le commentaire, mais donner quelques détails pour qu'il puisse un peu mieux réaliser ce qui est en train de se passer. Puis aussi il y a quelques petits commentaires explicatifs qui au passage rappellent ce qu'est tel geste ou tel autre. Voilà, j'essaye d'avoir une petite pédagogie de la liturgie, on va dire.
Ben ça s'entend en tout cas. C'est vrai qu'on faisait pas mal d'allers-retours, et dans la radio, enfin dans la voiture, je vous ai écouté, et on sent que voilà, vous faites ça avec, avec amour, on peut peut-être utiliser le mot quand même, hein. Et en tout cas, c'est ce que j'avais senti. Alors arrive une des héroïnes en fait de ce Tridium Pascal. Je propose qu'on commence par l'applaudir.
Il fallait pas dire ça, je crois.
C'est vrai, mais malgré tout, quand même, si les chants étaient cacophoniques pendant 3 jours, probablement que tout le monde aurait éteint son poste de radio et tout le monde aurait fui Blagnac. Donc vous n'avez pas chanté toute seule, mais si les autres chantent bien, oui. C'est en partie grâce à vous. Donc bravo. Ça fait pas une question, alors rassurez-vous, je vais quand même vous poser une question. Merci. Je sais pas, vous pouvez nous dire un petit peu qui vous êtes, peut-être présenter celle qui a fait chanter la communauté et vibrer les auditeurs pendant quelques jours.
Donc moi je m'appelle Sœur Florence et en fait je suis à la communauté depuis une vingtaine d'années. Et donc j'ai toujours été dans la musique avant la communauté. Et donc forcément, dès que je suis rentrée à la communauté, on m'a mis tout de suite au travail.
C'est-à-dire, vous faisiez de la musique avant ou vous faisiez du chant professionnel ou...
Non, je n'ai pas fait du chant professionnel, j'étais plutôt musicienne. Mais je chantais aussi dans la formation et toujours du chant, mais pas au niveau... professionnelle, mais je suis arrivée trop jeune aussi pour avoir vraiment pu avoir...
Parce que vous êtes rentrée à la communauté à quel âge ?
Je suis arrivée à 18 ans.
Ah oui, oui.
Donc, vous avez un tout petit accent, non ? Oui, voilà.
Vous êtes originaire de...
Je suis belge.
Voilà. Ah, belge, ça va, c'est juste à côté. On pourrait presque retransmettre un jour jusqu'en Belgique, n'est-ce pas,
Thibaut ? Pourquoi pas ? On va y travailler.
Alors, racontez-nous comment...
Chef-toy.
Ah oui, oui. Vous avez beaucoup... Enfin, c'était beaucoup de travail, j'imagine. Il y a eu de multiples répétitions. Racontez-nous un peu les coulisses.
Oui, alors, donc, on est toute une équipe, bien sûr, qui avons monté ça. Mais pas seulement. C'est-à-dire, on était une petite équipe pour soutenir le chant. Et après, il y a tous les frères et sœurs. Vous les avez entendus, d'ailleurs. Tous les frères et sœurs qui ont chanté avec nous, on les a soutenus en fait. On était un petit noyau qui a soutenu tout le cœur des frères et sœurs. Et donc c'est ça, c'est ce chant d'ensemble qui est monté vers le Seigneur en fait et qui était harmonieux. Alors bien sûr, ça demande de la préparation. Il y avait un petit noyau, mais il y a aussi une préparation pour tous les frères et sœurs. Ils ont eux aussi travaillé. Tout le monde a travaillé avec leur talent.
Il faut dire que déjà, vous travaillez en général les chants, parce que si j'ai bien compris, il y a une répétition tous les jours dans cette communauté, non ? C'est pas ça ?
Non, toutes les semaines.
Ah, toutes les semaines, pardon.
Toutes les semaines.
Mais la semaine qui précède, c'était tous les jours, me disait
Il y en a eu deux par semaine.
Comme quoi, il faut toujours vérifier ces informations.
Deux par semaine. Par contre, la Scola, on a effectivement travaillé un peu plus.
La Scola,
presque
c'est le petit
cœur, les jours. Ouais. Oui, c'est le petit noyau, oui.
Les différentes voix, juste pour ceux qui ne connaissent pas, quelles sont-elles dans ce petit cœur ?
Il y a quatre voix, donc il y a les basses, puis après les ténors, hein, c'est les hommes qui chantent un peu plus haut, puis les alti, qui sont les femmes qui chantent un peu plus bas, et les sopranes, qui sont les plus hautes.
Voilà. Michel-Martin Prévalet, est-ce que vous allez lui accorder 2-3 jours de vacances, du coup, exceptionnels à la sœur ? Non, elle a un ticket pour
aller
se reposer.
Non, parce que voilà, aujourd'hui, c'est un jour de fête, bien sûr. Demain aussi, on va encore faire la fête. Mais ensuite, il y a nos activités qui reprennent parce que beaucoup de frères et sœurs font des études ou travaillent. Et donc, on va être encore tout à fait dans nos activités habituelles. On ne peut pas faire une octave, une vraie octave, bien sûr. On est bien en communion avec tous ceux qui travaillent aussi.
Voilà, c'est une manière quand même de souligner ce que vous nous avez donné, parce que vous aussi, comme Étienne, c'est certainement un peu de sacrifice à l'occasion de ce tridium. Vous l'avez vécu, mais peut-être moins paisiblement que d'autres. On va peut-être faire une première pause, et puis après avoir parlé un peu making of, on essaiera de voir. Alors vous allez nous accompagner, hein, Michel-Martin Prével, voir un peu quels sont les clins d'œil, comme on dit parfois, on dit clin d'œil et clin d'œil. Est-ce que Dieu a répondu présent selon vous à l'occasion de ce tridium, et quel petit signe on peut partager avec tous les auditeurs. Baruch haba, b'shem Adonai, Baruch haba ben David. Baruch haba, b'shem Adonai, Baruch haba ben David. Hoshana, 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 Hoshana. Hoshana, Hoshana, Hoshana.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna.
Voilà, bienvenue chers auditeurs pour ces dernières minutes avec nous avant la bénédiction Urbi et Orbi, donc à midi, c'est ça, hein, on l'espère, du pape François. Bénédiction donc dans une multitude de langues à l'adresse du monde entier pour annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité. On s'était dit dans cette fin de Semaine Sainte et de Tridium qu'on allait essayer, difficile exercice parce que ça demande de parler parfois de choses, dire un peu, partager un peu de son cœur, quand est-ce que Dieu a fait signe et a répondu, en dehors évidemment de la liturgie, puisque la foi de l'Église, c'est que la liturgie, c'est le temps de Dieu. On va commencer avec vous, Père Michel Martin Prével. Vous nous avez accompagnés, c'était un peu vous notre interlocuteur. Vous êtes le super de cette communauté, donc on imagine qu'il y a beaucoup de gens quand même qui vous parlent ou qui viennent à vous. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'à deux, trois moments, Dieu vous avait fait signe en disant « Je suis bien là, tout va bien et je m'en occupe ».
Ben, moi, personnellement, j'ai senti très, très fort la grâce. Enfin, je sens quelquefois à d'autres moments, mais là, tout spécialement, quand nous avons fait, je pense que c'est une prouesse radiophonique que de faire l'adoration du Saint-Sacrement par la radio. Normalement, c'est en silence et nous avons bien...
Double obscurité, c'est-à-dire on ne voit pas vraiment Jésus et en plus, on ne voit pas le Saint-Sacrement.
Voilà, c'est... et pourtant, c'était pour moi un moment très fort parce que j'ai senti vraiment justement cette communion des saints dont je parlais tout à l'heure. Et pendant 20 minutes, parce qu'il y avait aussi ce chant qui nous a porté, il y avait aussi des choses musicales. Enfin, en tout cas, le Seigneur était devant nous, nous précisément, dans cette chapelle du monastère. Et en même temps, j'ai eu conscience que c'était une grâce qui rejoignait les autres. Parce que je crois que le Christ emploie ces moyens-là. Quand il est monté sur une montagne pour faire le sermon sur la montagne, c'est parce qu'il voulait utiliser techniquement ce moyen pour pouvoir être entendu le plus loin possible. Eh bien, aujourd'hui, je suis sûr qu'il monte sur cette montagne des ondes de radioprésence et d'autres pour se faire entendre et se faire aussi proche de tous. Et l'adoration du Saint-Sacrement, ce n'est pas celui qui est loin, c'est celui qui se rapproche de nous. Et j'ai senti très fort ce moment, spécialement jeudi matin. J'ai senti que tous les auditeurs étaient bien avec nous dans la chapelle. C'est quand même une prouesse technique, ça. On est bien d'accord.
Oui, parce que 45 000 personnes presque voilà. Dans la chapelle de Blagnac, ça fait quand même du monde.
Et le deuxième moment fort que j'ai senti aussi, c'est quand nous avons lu le sermon de Saint Épiphane, qui décrit d'une façon très, très dramatique, presque théâtrale, la façon dont le Christ descend aux enfers pour aller chercher Adam. Et ce dialogue bouleversant entre le Christ et Adam, c'était chanté un peu à la mode un petit peu orientale. Et j'ai senti là aussi que beaucoup étaient comme saisis par cette rencontre qui est aussi, je crois, bien passée sur les ondes. J'en ai eu en tout cas des remontées de certains. Voilà ces deux grands moments pour moi qui ont été vécus dans cette Semaine Sainte.
Étienne Dallaire, un moment où j'ai pris la radio, comme ça vous parliez au moment de la messe, de la communion de désir. Est-ce que ce n'est pas un peu du même ordre? C'est-à-dire qu'en fait, on est chez soi. Et est-ce que vous pouvez expliciter davantage? Parce qu'on ne participe pas à la messe, mais en même temps, d'une certaine manière, la communion est effective. Donc là, c'est un peu pareil pour l'adoration. C'est quand même... Ça peut être très mystérieux, est-ce que vous pouvez réexpliquer ?
Oui, c'est comme au moment du baiser de paix. Moi, je suis persuadé que cette paix qui vient de l'Eucharistie, qui est transmise de personne en personne qui sont là présentes, eh bien, se transmet de la même manière à tous ceux qui sont finalement présents d'une autre manière, par l'écoute. S'il est question de la grâce, je pense que la grâce n'est pas arrêtée par les distances. Et elle peut nous rejoindre à des milliers de kilomètres. On peut être touché par quelque chose qui se passe à tel endroit alors qu'on n'y est pas. Je pense que ça,
elle n'est pas contingente d'abord des réalités physiques d'une certaine manière.
Tout à fait. Elle n'est pas prisonnière ni de l'espace ni du temps. C'est pour ça que quand on va sur un lieu saint, on peut être rejoint par une grâce spécifique qui est attachée à ce lieu au-delà des siècles. En fait, hein, quand on va à Bethléem, on peut être touché à la grotte de la Nativité, alors que je dirais que cette grâce de la Nativité, elle s'est produite il y a 2000 ans, oui. Mais elle est toujours là présente. Donc, on peut être touché par quelque chose de cette grâce particulière. Donc, elle n'est pas prisonnière, ni de l'espace, ni du temps, et bah, je dirais, avec la radio, on en profite.
J'ai souvenir d'une phrase du cardinal Lustiger, défunt cardinal Lustiger, qui au moment de la fondation de KTO avait dit « ce sont les cathédrales des temps modernes ». Alors peut-être que Radio Présence n'est pas une cathédrale, mais au moins on a essayé d'être une grande église.
Une abbatiale.
Voilà, et on sait que le cardinal Lustiger surtout ne parlait pas à tort et à travers. Il avait l'habitude de dire ce qu'il pensait, pour le meilleur et pour le pire. Non, juste Thibaut, je voulais vous demander, vous allez nous faire d'autres adorations comme ça, radiophoniques, ou là ça devient vraiment
Je me souviens d'une homélie de Monseigneur Le Gall qui est venu célébrer la messe à la rentrée de septembre 2017 à la radio.
L'archevêque de Toulouse, lui.
L'archevêque de Toulouse, absolument.
Et vivant.
Absolument. Et qui nous a fait une homélie sur le silence. Et c'est vrai que ce n'est pas un mince paradoxe, puisqu'évidemment, la radio ne supporte pas le silence. Il faut tout le temps parler. Et cette adoration, l'adoration suppose le silence, l'inclinaison devant le Saint-Sacrement. Et je trouve que c'est un magnifique défi d'imaginer qu'on a pu faire vivre effectivement à nos auditeurs ce temps d'adoration avec ce silence habité par le chant notamment.
Francky, une demi-heure de silence à l'antenne, vous êtes d'accord ou vous mettez un veto ?
On y réfléchit, c'est marrant parce que justement j'en ai discuté avec un des frères en début de semaine là, pendant l'installation, que Monseigneur Le Gall nous mettait au défi de faire des temps de silence à la radio. Donc ouais. Voilà, on y pense et on y a peut-être réussi cette semaine.
Ça nous reposerait en fait.
Ça vous reposerait, oui. Après, est-ce que les auditeurs ne passeraient pas une autre radio ? Ça reste à prouver.
Oui, ça je pense, oui.
Alors, il y a eu un invité un peu surprise. Je voudrais qu'on lui donne un tout petit peu la parole. C'est Mathieu. Mathieu est stagiaire à Radio Présence pendant un mois. Et pour moi, ça a été... les journalistes ne doivent pas en général parler à la première personne, mais bon, les circonstances sont particulières. Ça a été un peu mon clin d'œil parce qu'à la sortie des plateaux, à chaque fois, on se donne du mal pour essayer de faire en sorte que ça soit intéressant, qu'on essaye d'expliquer ça à nouveau frais, de faire en sorte que ça parle à ceux qui sont, on va dire, très érudits, qui sont chrétiens pratiquants, qui suivent bien Stridium, voire à quelqu'un qui tomberait comme ça sur l'antenne. Et Mathieu a fait un peu office de celui qui tomberait sur l'antenne, puisque tu es athéiste,
ouais, c'est ça, je suis athéiste.
Athéiste, ça veut dire ?
C'est-à-dire que je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en la divinité, oui.
Voilà, et malgré tout, alors c'est pas du tout pour travailler à te récupérer, mais il y a 2-3 fois où, en sortant des plateaux, c'est avec toi que j'avais des conversations, je me permets de te tutoyer, pardon, hein. Tu relevais en fait des choses assez précises dans les émissions qui me semblaient être un peu la fine pointe de l'émission. Alors, le premier mot général, c'est que toi, tu es arrivé dans une communauté religieuse, c'était peut-être la première fois que tu débarquais comme ça dans une communauté. Quel a été peut-être ton sentiment ? Tu n'es pas obligé de nous révéler des secrets, mais quel a été ton sentiment général ?
Comme l'a dit Francky, pour moi, c'est déjà la bienveillance qui règne ici, dans le monastère. C'est vraiment le non-jugement de mon athéisme, parce que j'avais quelques craintes avant d'arriver, du fait que je sois athée.
Tu sais qu'on allait te jeter dehors ou
exactement.
Te brûler au feu, c'est ça ?
Non, mais
il y avait assez de bois. Donc,
Le non-jugement de mon athéisme, vraiment, c'était un des trucs qui m'a frappé en premier. Le fait que tout le monde est avec tout le monde mange ensemble, c'est vraiment un truc exceptionnel. un truc à voir, au moins une fois, même en tant qu'athée.
Alors, parmi les émissions, on va juste en citer deux, parce que je crois que la première sur le judaïsme, enfin, c'est l'émission dont j'avais la charge, tu n'étais pas là, mais la deuxième, on a parlé de la vie charismatique.
Oui.
Donc, pour rappel, la communauté des Béatitudes fait partie de ces communautés nouvelles que l'on dit être charismatiques, enfin, qui se disent comme telles. Et la vie, l'exercice des charismes, c'est parfois des manifestations de Dieu un peu étonnantes. Mmh. À un moment, les frères et sœurs ont pris ce qu'on appelle un chant en langue. Alors là, il n'y a a priori rien d'extraordinaire, il faut juste oser se lancer. Qu'on fasse le podcast de l'émission sur notre site internet. Thibaut nous donnera toutes les informations à la fin de ce mag. Mais je ne sais pas quel souvenir tu as de cette émission, et tu avais relevé une ou deux choses à propos de cette émission.
Moi déjà, c'est le chant langue avec l'harmonie, malgré le fait que le langage n'existe pas. C'est quand même une harmonie, parce qu'ils étaient deux à faire le chant langue, du coup. Et il y avait une certaine harmonie entre les deux, alors qu'ils ne disaient pas la même chose, étant donné que ce n'était pas une langue. Du coup, je trouvais ça vraiment, vraiment beau et vraiment classe. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est la guérison, ce qui m'a marqué. C'est,
c'est-à-dire, tu peux redire ce qui avait été, enfin, un gros trait, ce que tu en as retenu ?
C'était un homme qui avait été guéri par... je ne sais plus les termes exacts, parce que ça remonte un petit peu. Mais il avait été guéri... grâce à Dieu, j'étais un peu,
intrigué.
Intrigué, voilà, par ça, surtout intrigué.
Il y avait une dernière chose, peut-être tu voulais nous partager. C'était à la faveur d'une autre émission, non ?
Oui, c'est la descente aux enfers d'Épiphane, le sermon que j'ai trouvé vraiment beau avec les mots qui sont utilisés, les mots forts et le ton qui monte à chaque phrase. Je trouve ça beau. Ça m'a même fait hérisser les poils en tant qu'athéiste. Je trouve ça plutôt fort.
Ça c'était le Père Augustin hier. C'était
le Père Augustin, oui,
à l'occasion jeudi. De la mise au tombeau, c'est ça ?
Vendredi.
Samedi.
Oui.
Et il faut dire, pour finir, Mathieu, tu me pardonneras si je trahis un secret, mais en sortant, Mathieu disait, mais c'est dingue quand même cette phrase, Jésus qui dit, qui va voir Adam et qui lui dit, je me suis fait ton fils pour te rejoindre. Ouais. Et voilà, et Mathieu m'a aidé à prendre conscience de ce qu'il y avait de grand.
Je suis ton Dieu, à cause de toi, je suis devenu ton fils.
Je suis devenu ton fils, puisque dans la généalogie, évidemment, Jésus est le fils d'Adam, pas directement, mais est-ce que ça vous inspire l'un ou l'autre commentaire, le pasteur que vous êtes, y voyez-vous un clin d'œil, Michel Martin Prével ? Pensez à prendre votre micro, sinon on ne vous entendra pas.
Ben moi, je suis surtout étonné de ce que le Seigneur fait bien au-delà des apparences. Et c'est d'ailleurs le propre de la résurrection, c'est qu'il y a une apparence quelquefois un peu vide. La résurrection, ce n'est pas autre chose qu'un oxymore. C'est une absence et en même temps, ça dit une présence. Alors, c'est vrai que la raison bute là-dessus. Pour ça, beaucoup de gens peuvent dire « mais le Christ n'est pas ressuscité ». Il faut peut-être respecter ça parce qu'il y a cette sorte de saut à faire qui s'appelle la foi. Et la foi, c'est bien sûr un fruit de la résurrection. Il y a ce saut parce que devant cet oxymore, il s'agit de faire confiance. Et c'est vraiment cette confiance qui fait que finalement, se laisser faire par Dieu, c'est comme ça que tout doucement, on arrive à la foi. Et je te souhaite, Mathieu, surtout d'être disponible, d'être ouvert, de continuer à ouvrir tes yeux parce que ce monde est rempli de petites pousses qui sont là en train de nous parler de la vie et non pas de la mort.
Dernière chose, est-ce que vous pourriez donner un petit conseil pastoral à tous les auditeurs qui ont suivi ce tridium ? Peut-être certains sortent de ce tridium en se disant « c'était très beau, mais justement, les signes de Dieu au quotidien, ou peut-être malgré tout, on continue à se dire « mais est-ce que tout ça est vrai ?» Quelles seraient les deux, trois petites pistes que vous pourriez donner pour justement comment continuer à avancer après ce tridium ou relire tout ce qu'on a vécu ensemble ?
Ben, ça me fait penser, vous savez, les mariages, on fait beaucoup de choses, c'est magnifique, il y a des sons, de la musique, il y a des liturgies, il y a tout ça. Quand on fait un mariage, on a l'impression que tout est là, en réalité tout commence. Et avec la résurrection que nous avons encore célébrée cette année, ce n'est qu'un commencement et c'est en fait tous les jours que le Christ est vivant. C'est maintenant pour chacun qu'il faut continuer à le voir. Ce n'est pas retenir un beau souvenir, hein, faire simplement mémoire, mais c'est dans l'aujourd'hui et même dans le futur, dans ce qui nous attend, que le Christ est là et qu'il va marcher avec nous. Donc surtout, ce n'est qu'un commencement.
Étienne, peut-être peut-on finir avec vous, puisque vous êtes un peu la voix.
Le fil conducteur.
Voilà, le fil conducteur, the voice de cette semaine sainte, de ce tridium. Est-ce que vous, malgré le fait que vous étiez dans une salle surchauffée à suivre la liturgie et que vous n'aviez pas vu grand monde, hormis les invités en plateau, vous diriez que Dieu vous a fait signe ou pour vous, il était bien présent, il a répondu au rendez-vous ?
Oui, et comme Mathieu, j'ai été très saisi par la litanie du sermon de saint Épiphane chanté par le père Augustin. C'est vrai que ça donne des frissons à un moment donné. Je sais pas, il y avait une. Et c'est pas le texte, c'est pas le chant, je sais pas ce qui donne le frisson finalement. Il doit y avoir quelque chose de plus. Hein, c'est l'ensemble et sans doute porteur d'une grâce particulière.
En tout cas, je l'ai croisé, il m'a dit « j'ai choisi de chanter avec mes tripes voilà. ». Donc peut-être que ça a joué. C'est...
Voilà, et peut-être, je ne sais pas où on en est par rapport à Rome. Je n'aurais pas marché sur les pieds du Saint-Père.
Vous aviez peut-être une autre anecdote, Sœur Florence, que Thibaut vous faisait partager pendant la pause.
Oui, alors bien sûr, il y a des anecdotes de petits bugs d'organisation. Pendant la liturgie, évidemment, des partitions, mauvaises partitions, ou en tout cas complètement mélangées, qu'il y avait pour les choristes. Et bon, voilà. Donc ça a été un peu.
Ça vous est arrivé parfois à l'office avec.
Ben oui, pendant la messe.
Sans être prête.
C'est pas que je suis pas prête, mais on va dire que en fait tout ne roule pas. Donc au fur et à mesure que je chante, il faut que je fasse des signes pour dire c'est par là, c'est par là. Il faut prendre cette partition. On fait tel psaume, on fait. Parce que voilà, parce que j'ai bugué la veille ou la veille pour préparer les trucs, les petits détails qui font des bons en. Bons enrouages, évidemment.
Et vous, est-ce que vous avez eu le sentiment d'être aidé aussi un ou deux moments ? Est-ce que...
Oui, oui, oui. Enfin, j'ai demandé de l'aide aussi, parce qu'on est quand même une équipe de chantres. Bon, j'ai dû le faire parce que c'était mieux comme ça pour l'antenne, que ce soit toujours la même personne quand même qui tienne le flambeau.
Mais des aides, un peu plus qu'humaines, peut-être, un ou deux moments.
Ah, bah ça,
est-ce
de toute façon, oui.
Est-ce que vous avez eu le
oui.
sentiment un ou deux moments, ça, vous avez dit, façon. Tiens, là, il y a un petit coup de pouce.
Ah, bah, on compte toujours sur la grâce de Dieu, tout à fait.
Voilà, c'est la fin de ce tridium. Nous sommes en direct de Rome avec le pape François pour la bénédiction Urbi et Orbi. Merci, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés pendant toute cette semaine sainte.
Au revoir à tous.